France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La faillite n'a pas pu être évitée pour Thomas Cook. Le voyagiste britannique l'a officialisé cette nuit après l'échec d'un marathon de discussions avec ses créanciers et son actionnaire chinois. Le pionnier des tours opérateurs a subi la concurrence d'Internet et entre donc en liquidation judiciaire avec effet immédiat. 22 000 personnes y travaillaient. 600 000 touristes se retrouvent sans billets ou sans tours opérateurs. Une opération de rapatriement va donc être organisée. Ce sera la plus grande opération jamais organisée depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Royaume-Uni toujours, les travaillistes apparaissent encore divisés sur le Brexit, alors que le parti, première force d'opposition dans le pays, tient son congrès depuis ce week-end. Plusieurs représentants du Labour se prononcent déjà en faveur du maintien dans l'Union européenne et ils appellent Jeremy Corbyn à en faire de même. Un vote à ce propos est prévu dans l'après-midi. Il n'y aura pas de rencontre entre l'Américain Donald Trump et l'Iranien Hassan Rouhani en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre aujourd'hui à New York. Pas de rencontre, c'est en tout cas ce que pense Jean-Yves Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères appelle Téhéran à revenir pleinement à ses engagements qui avaient été pris en 2015 dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire. L'actualité ce matin, c'est aussi ce procès qui s'ouvre 10 ans après le retrait du Mediator. Un procès géant à la hauteur du scandale déclenché par ce médicament antidiabétique accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiaques pendant plus de 30 ans. Sur le banc des prévenus, les laboratoires Servier, l'agence du médicament et plusieurs de ses anciens membres. Ils sont soupçonnés de tromperie, d'escroquerie, d'homicide et blessures involontaires, de négligence et prise illégale d'intérêt. Le Mediator, souvent prescrit comme coupe-faim, pourrait être responsable à long terme de 500 à 2100 morts. Et puis notons que Toutankhamon quitte Paris. L'exposition consacrée au trésor du pharaon a officiellement été la plus visitée de France avec près d'1,5 million de visiteurs en 6 mois. Les 150 objets issus de la tombe du pharaon vont aller à Londres avant un retour définitif en Égypte prévu en 2024.
François Mitterrand est élu président de la
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80. Projet Orloff, la nouvelle fiction de France Culture en podcast original.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien.
J'ai potentiellement un énorme scandale d'État.
Projet Orloff, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, sur franceculture.fr, dès aujourd'hui. À vos casques.
Nous sommes le lundi 23 septembre, il est 6h03 sur France Culture. Pour bien commencer la semaine, on débute avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 23 septembre. Ici, pour commencer la semaine, on décidait de ne rien faire de ce qui était prévu. De tout quitter, là, maintenant, tout de suite, pour aller retrouver, quelque part, le goût des vacances sans fin et de ne vivre que de ses passions. Facile à dire, difficile à faire, n'est-ce pas? Mais mon invité ce matin, elle l'a fait. Elle a décidé un jour de changer de vie, radicalement. De tout quitter, pour reprendre le titre de son ouvrage édité chez Flammarion. De tout quitter pour s'adonner à sa passion, le surf. Anaïs Vanel est avec nous dans le studio du Réveil Culturel. Une émission préparée avec la complicité de Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard. Avec ce matin à la prise de son, Delphine Baudet.
Le Réveil Culturel. Lundi, livre.
Je n'ai pas de télévision, ni internet, mais j'ai 106 kilomètres de côtes sableuses, bordées de dunes. J'ai 1 million d'hectares de forêts, des pins maritimes, des chênes blancs, verts, noirs, des chênes lièges, des bouleaux, des sols, du houx. J'ai des grands lacs et des étangs, des brochets, des perches, des carpes, des hérons, des alouettes, des fougères, des roseaux. J'ai une piste cyclable de 1200 km, des chemins de terre, des chemins de sable, des champs de blé, de maïs, de hortensia. J'ai 1001 teintes de bleu, de feu. J'ai des couchers de soleil sur l'océan, des méduses, des vives, des poulpes. J'ai du temps. J'ai de longs après-midi d'exploration, de longues matinées d'introspection. J'ai une planche, j'ai des vagues. Cet extrait de « Tout quitter », votre premier roman, Anaïs Vanel. Enfin, c'est un témoignage, c'est pas un roman. Vous avez vraiment tout quitté pour vous adonner au surf.
C'est ça. Ça, c'est un roman autobiographique, on va dire, ouais. 99% de ce qui est dans le livre est autobiographique.
Et c'est une somme d'instantanés, des courts paragraphes, au fil des jours, des quatre saisons, les jours et les nuits d'une nouvelle vie entièrement consacrée à la passion du surf. C'est quoi vivre au présent en glissant ? C'est quoi apprendre à observer le ciel et les étoiles, être bercé par les souvenirs d'enfance, les sons du surf, enfin les sons du surf, celui du cordon sur la résine, des clapotis de l'eau qui rencontrent la planche au large?
Et ben c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est des instantanés, des petits fragments comme ça, et c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça m'a traversé en fait, dans cette nouvelle vie, par petits fragments d'émotions, de sensations retrouvées. Et on va dire perdu de vue depuis trop longtemps. Et donc ça m'a vraiment traversé comme ça. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, ben, de ma nouvelle vie là-bas et de l'écriture, que ça formait en fait une espèce de puzzle et que tout ça reconstituait moi-même.
Et comment est née cette idée de tout abandonner? Parce que vous aviez une situation confortable. Par les temps qui courent, on peut même qualifier votre métier de confortable. C'est-à-dire une vie parisienne dans un des meilleurs milieux de Paris, c'est-à-dire le milieu de l'édition. Vous étiez chez Flammarion, la maison qui édite d'ailleurs votre livre. Comment vous avez décidé, du jour au lendemain, de tout abandonner?
Bah, c'est vrai que j'avais, en tout cas en apparence, une très belle situation, une belle carrière, un bel appartement haussmannien, une belle vie parisienne, des beaux copains, des belles copines. Et derrière tout ça, en fait, j'avais surtout un beau vide. Et ça faisait des années que je le ressentais. Mais voilà, j'étais prise par...
Qu'est-ce que vous appelez par un beau vide? C'est bizarre,
Anaïs Vanel. Eh bien, en fait, ça faisait des années que je ressentais une espèce de manque de sens, je dirais, dans ma vie. Et puis le quotidien fait que on est très occupé, donc on n'y pense pas forcément. Et il y a eu une succession d'événements qui sont des petits déclics qui m'ont amené à voir cette vérité en face, qui était que j'étais dans cette vie un petit peu fantomatique. Et j'ai tout quitté parce qu'à un moment, ça s'est présenté à moi comme une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que c'était un besoin vital. C'était soit je devenais vraiment, j'embrassais cette vie fantomatique et je devenais un zombie. Ou sinon, je décidais de vivre, et j'ai décidé de vivre.
De vivre, d'apprendre, de découvrir, de s'émerveiller, d'expérimenter, de se relier à la nature, de vibrer. C'est ça ce que vous racontez?
Exactement, et j'avais besoin de me reconnecter à des choses simples, et ça c'est venu...
Et aux autres, pour commencer.
Et oui, exactement.
Vous dites, j'aime retrouver le sens du partage, j'aime aussi expérimenter... une certaine forme de paresse, oser ne rien faire, contempler, improviser, semer, récolter, donner, rêver, créer, simplifier, commencer, imaginer, se lancer, aimer, chanter, s'élever, se libérer, vivre.
Et je pense que quand on n'est pas bien dans sa vie, pas bien calé, pas bien centré, même si on est très entouré, et c'était mon cas, hein, je sortais beaucoup, il y avait voilà, les mondanités culturelles parisiennes, je me sentais très seule. Et donc j'ai décidé de vraiment me reconnecter à moi pour mieux m'ouvrir aux autres à nouveau.
Et pourquoi le surf? Parce que vous allez nous introduire dans un monde incroyable, celui des surfeuses et des surfeurs.
En fait, j'ai fait un stage de surf et ça m'a bouleversée, littéralement. C'est-à-dire que j'ai pris un choc qui a été une reconnexion à mon corps en premier lieu, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait des années que je vivais avec un cerveau seulement, et c'était terrible. Donc, d'un coup... J'ai eu plein de sensations qui m'ont envahi et qui m'ont retiré comme ça vers l'enfance. Et je me suis rappelé qu'en fait, quand j'étais enfant, je je disais clairement que je ne voulais jamais avoir une vie de bureau, une vie bien rangée, etc. et que je voulais plutôt vivre dans la nature, dans l'océan, voilà. Donc il y a plein de souvenirs qui sont remontés. Et on va dire que c'est à partir de ce stage de surf et des sensations que j'ai eues, que j'ai ressenties dans l'océan, que j'ai décidé de partir.
C'est le titre de votre ouvrage. Vous racontez donc les premiers jours, les premières saisons de votre nouvelle vie, Anaïs Vanel. On ne sait pas très exactement où vous êtes. L'océan est devenu votre nouveau territoire. Mais s'il fallait vous situer géographiquement dans la carte de France...
En fait, j'habite maintenant à Hossegor, dans les Landes. Et j'ai volontairement, dans le roman, cité aucun nom de lieu. Que ce soit le lieu où je vis actuellement, que ce soit dans mes souvenirs d'enfance, là où j'ai grandi, pour laisser la place à 100% en fait, aux émotions, aux sensations, et pour que le lecteur puisse... que ça puisse ouvrir la porte des souvenirs du lecteur, en fait.
Alors, vous racontez très bien cette initiation à la nouvelle vie, à votre nouvelle vie, Anaïs Vanel, mais... Vous pensez bien que tout le monde rêverait de faire comme vous, c'est-à-dire de quitter son boulot, son train-train quotidien, son confort ou même son non-confort pour s'adonner à sa passion. Mais c'est pas donné à n'importe qui. Encore faut-il en avoir les moyens. Et là, dans ce livre, tout quitter, vous nous dites pas ce qu'on attend. Mais comment a-t-elle pu faire ça?
Ah, en fait, c'est très simple. Et d'ailleurs, j'ouvre le livre en disant ça, en disant, voilà, moi, j'ai mis tous les cartons dans le coffre un jour et je me suis rendu compte que, en fait, on peut partir avec une étonnante simplicité parce que c'est plus des blocages psychologiques qu'autre chose.
Que matériel, vous voulez dire?
Oui. Parce que moi, quand je suis partie, j'avais vraiment pas d'argent de côté. J'avais négocié une rupture conventionnelle qui fait que j'ai pu bénéficier du chômage. Mais je suis partie sans rien avoir à part ça.
Et comment vous avez fait pour trouver une maison?
J'ai pas de maison.
Mais alors comment vous faites?
J'ai un petit appartement et voilà. Mais en fait, comment on fait? C'est simple, c'est-à-dire que quand on veut changer de vie, on se projette, mais de l'endroit où on est actuellement, c'est-à-dire d'une vie parisienne où on a beaucoup de sorties, beaucoup de dépenses. Et donc on se dit, oh là là, mais il me faudrait des 1000 et des 100 pour tout quitter. Alors qu'en fait, quand on quitte tout, on se reconnecte à une simplicité qui peut être déconcertante au début, mais qui fait qu'en fait, on peut vivre avec trois fois moins et se nourrir, c'est ce que je dis, voilà, dans l'extrait que vous avez lu, et se nourrir de choses beaucoup plus simples.
C'est une quête de sens, Anaïs Vanel?
Oui, une quête de sens et puis une quête vers soi aussi.
C'est de l'ordre du spirituel, vous voulez dire?
c'est lié, je pense. Ouais, il y a une part spirituelle, j'en parle un tout petit peu dans le livre. Mais oui, bien sûr.
Et pourtant, quand vous parlez de votre ancienne vie, de vos anciens collègues, de ce milieu littéraire, c'est un regard plutôt sympathique. Vous ne regrettez pas non plus d'être passé par là?
Non, pas du tout. J'ai pas eu de violence, j'ai pas eu de rejet du milieu dans lequel j'ai évolué pendant des années, tout simplement parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire et de mon chemin. Donc je l'accepte, mais comme je dis dans le livre, c'est curieux, à un moment les réalités se sont inversées. Donc c'est-à-dire que en vacances, on se dit toujours, tiens, et si cette parenthèse enchantée devenait ma réalité? Et moi, j'ai fait en sorte que ces réalités s'inversent. Mais tout simplement, c'est comme, aujourd'hui, je regarde cette vie en me disant, tiens, c'est comme une série télévisée qu'on aurait regardée il y a des années et dont on ne sait plus trop qui sont les acteurs principaux. Et ben, je regarde aujourd'hui mon ancienne vie exactement de la même manière.
C'était une décision très personnelle ou vous en avez parlé autour de vous avant de tout quitter, Anaïs Vanel, pour changer de vie?
J'en ai pas du tout parlé. Tout le temps où j'ai nourri, ça a duré un an à peu près, où j'ai nourri ce projet, je me suis beaucoup refermée sur moi-même. J'avais pas du tout envie de partager ça à cœur ouvert avec mes amis ou mes proches.
De peur qu'on vous retienne?
Non, tout simplement aussi parce que je pense que ça vient appuyer sur des peurs et des blocages que les autres transfèrent sur nous. Et j'avais pas envie d'avoir ces discussions, j'avais pas envie d'être confrontée à ça.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est le titre de l'ouvrage d'Anaïs Vanel, édité par Flammarion. Tout quitter pour s'adonner à sa passion, le surf. Vous connaissez cette chanson du groupe La Femme?
Oui, bien sûr, oui.
Ça vous parle, hein?
Ah ben forcément.
Il y a dans le surf une grande dimension charnelle. L'océan qui berce, la sensation de l'eau sur les mains, le sable qui masse les pieds, le soleil qui brûle la peau, le sel qui décolore les cheveux, les vagues qui enveloppent les jambes, les gouttes d'eau qui coulent le long de la peau et la chatouille, les combinaisons qui deviennent les corps. Je me suis réconcilié avec le mien. Avec le surf, j'ai appris que chaque marque sur le corps le rend unique. Je regarde le mien avec bienveillance et gratitude pour tout ce qu'il me promet de faire. Mon corps est plus détendu, tonique, harmonieux, et le désir remonte. C'est ce que vous dites, Anaïs Vanel.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je disais avant. C'est étonnant de se reconnecter avec son corps quand, en fait, on a vécu avec un cerveau pendant des années. Donc, c'est à la fois surprenant, excitant, envoûtant. C'est très charnel, en fait, le surf.
Est-ce que le surf est un monde qui laisse une place aux filles? Est-ce qu'il y a autant de surfeuses que de surfeurs? Apparemment pas dans le coin où vous êtes allé vous refaire ou tenter une nouvelle vie, Anaïs Vanel.
Ben moi je suis on va dire j'ai un regard encore débutant sur ce milieu, mais non, il y a beaucoup de filles qui sont à l'eau. Moi-même je fais partie d'un club de filles, donc il y a de plus en plus de filles. J'ai pas ressenti un extrême rejet des filles à l'eau.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans cette passion qu'est le surf?
Mais je pense que déjà il y a tout l'aspect charnel, on va dire, de reconnexion au corps dont j'ai parlé. Il y a aussi le fait que c'est un état, ça nous plonge dans un état d'enfance qui est très important, je trouve. Et Allo, que ce soit voilà un chef d'entreprise ou un employé ou qu'on soit n'importe qui, on est tous avec nos combinaisons, on a tous les cheveux dans la tête et on est tous pareils et on est tous un enfant voilà qui veut s'amuser.
C'est pour ça que vous laissez d'ailleurs vos souvenirs d'enfance remonter à la surface, si j'ose dire, de votre premier roman Tout quitter.
Ben exactement, ça fait remonter énormément de souvenirs et surtout moi ça m'en a fait remonter un qui était assez émouvant et que j'avais enfoui. Voire oublié, qui était quand j'avais 8 ans, je suis allée dans un camping avec mes parents et c'est pour moi c'était fou parce que c'était une des premières fois que je voyais l'océan, la mer, et j'avais oublié et je m'en souvenais plus et j'avais assisté à un championnat de surf et ça m'avait fascinée et la vie fait que voilà, je me suis éloignée de ce souvenir et je l'ai complètement enfoui en moi et il est réapparu au contact de l'océan.
Avec les surfeurs, avec les surfeuses, vous parlez de quoi, Anaïs Vanel?
Alors, à l'eau, il y a plusieurs comportements. Souvent, c'est assez silencieux quand même, parce que c'est un sport qui peut être assez solitaire. Donc, à l'eau, on voit souvent des surfeuses et des surfeurs qui sont très, on va dire, dans une espèce de transe méditative. Quand on est là, on attend les vagues, on regarde. Donc, on parle pas beaucoup. Et comme je dis dans le livre, parfois il y a quelqu'un qui vient rompre ce silence et qui demande quelle heure il est, parce qu'on perd la notion du temps, évidemment, dans l'eau. Et ça, c'est formidable.
Alors justement, ce que vous écrivez, c'est que il n'y a plus de notion de temps dans votre nouvelle vie, Anaïs Vanel. Je ne sais pas quel jour on est, ni quelle heure il est, mais je sais que c'est marée haute, ou marée basse, ou mi-marée. Je sais quand il y a des vagues, quelle planche prendre, je sais comment est la houle. Quel est le sens du vent? Je sais si la marée remonte vite, quelle est la fréquence des vagues. Je sais s'il faut attendre ou se déplacer quand ça remonte. Je sais quand il y a du courant, comment se maintenir, comment ne pas lutter. Je sais ne plus m'épuiser en vain.
Mais oui, c'est intéressant, je trouve, de se réapproprier la notion du temps. Et enfant, on a cette capacité d'élasticité, de temps parce que j'ai l'impression qu'on a le choix et qu'on choisit si voilà on le temps doit passer vite ou moins vite. Adulte, ça nous échappe et moi dans mon ancienne vie ça m'échappait beaucoup. C'est on rentre dans la folie des heures pressées comme j'appelle ça et c'est vrai que pour moi c'était vraiment essentiel de se réapproprier le temps plus voilà plus naturel et dicté par des choses qui sont telles que les marées, etc.
Et les saisons, parce que vous surfez en été, mais aussi en automne, quand il pleut, quand il neige.
Oui, et j'ai découpé volontairement le livre
en quatre saisons,
parce que voilà, ça fait partie de ce cheminement de réappropriation du temps. C'est-à-dire que d'un coup, on goûte le temps, on goûte les saisons qui passent. Et ça, c'est formidable parce que dans mes souvenirs de ma vie parisienne, on va dire, on entend souvent, oh là là, mais c'est déjà la rentrée, c'est déjà l'hiver, on n'a pas vu le temps passer. Et là, voilà, c'est le bonheur de revoir le temps passer, les saisons changer. Et dans l'océan, en plus, c'est assez flagrant parce que la lumière est très différente. Donc d'un coup, on est attentif à tout ça. Et goûter le temps qui passe, voilà, pour moi, c'était très important.
Est-ce que le risque, c'est-à-dire jouer avec le risque, avec les vagues, avec les courants, ça fait partie du plaisir du surf, Anaïs Vanel?
Oui, forcément. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent que le comportement de quelqu'un à l'eau dit beaucoup de cette personne, de sa psychologie. Parce qu'en fait, on va dire qu'on prend des risques dans les vagues, mais j'en prenais tout autant dans ma vie parisienne. C'est-à-dire que lutter contre le courant, aller à contre-courant, voilà, c'est des choses qu'on fait dans sa vie quand on est en dehors de son rythme, quand on boit beaucoup de café pour rester éveillé, etc. C'est aussi une lutte. Donc quelque part, ça ressort dans l'océan, quoi.
À la fin de votre livre, il y a une histoire d'amour qui commence. Vous avez toute l'élégance, Anaïs Vanel, pour ne pas nous entraîner dans cette histoire d'amour, mais juste pour dire qu'une nouvelle vie est possible. Donc, on a l'impression que si vous revenez avec ce livre, si vous revenez chez Flammarion pour ce texte, ça ne veut pas dire que la parenthèse est refermée, non ?
Ben oui, une nouvelle vie est possible. Et puis, ce qui est marrant, c'est le fait que voilà, je revienne en tant qu'écrivaine chez Flammarion. Ça prouve aussi, et ça m'a prouvé que c'est une suite logique, finalement.
Je vous vois, mais vous n'avez pas, j'allais dire le look de surfeuse, vous n'avez pas le corps dessiné des gens qui vivent dehors, vous n'avez pas cette peau tannée par le soleil, comment vous faites ?
Ah bon ?
Est-ce que vous avez changé aussi physiquement depuis que vous avez changé de vie, Anaïs Vanel ?
Oui, évidemment, parce que...
Vous qui décrivez si bien les peaux tannées par le soleil des surfeurs, les corps dessinés...
On n'a pas la même vie, c'est une vie qui est dictée par l'océan, par la pratique du surf, donc forcément les corps se galbent, forcément il y a un relâchement qui vient du corps, forcément, mais qui vient aussi voilà d'une façon de s'habiller, etc. Moi je suis très souvent... pieds nus, maintenant je porte des vêtements très confortables. Donc oui, ça transforme physiquement, bien sûr, de vivre au contact de la nature, de l'océan, au soleil.
Et diriez-vous, comme ce surfeur que vous rencontrez à la fin de votre roman, de votre récit, Tout quitter Anaïs Vanel, que quand on sort de l'eau, on est sans cesse étonné d'être en vie. Cette sensation-là...
Oui, bah bien sûr, parce que quand on sort de l'eau, il y a un petit moment déjà de flottement où tout est un peu bancal, où on est surpris de retrouver une vie terrestre. Donc c'est assez grisant, quoi, c'est assez vertigineux comme sensation.
Les surfeurs, les surfeuses que vous avez rencontrées, Anaïs Vanel, ils appartiennent à un monde différent du vôtre?
Oui, parce que ce sont des gens qui ont choisi de vivre connectés à la nature et à un élément en particulier qui est assez indomptable, et donc ils essaient de pas le dompter, mais en tout cas de jouer avec. Donc forcément, c'est très différent dans le sens où on apprend, voilà, moi j'en parle dans le livre aussi, on apprend à jouer dans l'océan, mais on apprend aussi de lui. Je me suis demandé beaucoup dans l'eau si les leçons apprises dans l'eau, on pouvait les appliquer à notre vie terrestre. Donc c'est sans cesse des allers-retours comme ça entre ces deux éléments.
Vous allez y retourner bientôt, Anaïs Vanel ?
Ben, dès demain, oui, j'espère bien, si les conditions sont bonnes.
Pour sortir en mer ?
Oui, oui, pour aller surfer.
Pour aller surfer.
J'ai surfé hier et là j'espère m'y remettre dès demain, bien sûr.
Merci d'être passé pour nous parler de votre nouvelle vie, de votre expérience incroyable. Et je rappelle le titre de votre roman, Tout quitter, Anaïs Vanel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et à la page de l'émission, vous aurez même les photos d'Anaïs Vanel, la surfeuse, l'autrice qui était notre invitée ce matin. On se retrouve demain, et demain, comme tous les mardis, on parle de l'actualité des expos.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le jeudi 26 septembre à 20h, à l'Auditorium de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Joshua Weilerstein, vous invite à un voyage dans le temps. De la suite des Indes galantes de Rameau à la Symphonie écossaise de Mendelssohn, de Bach à Webern, sans oublier le concerto pour violon de Stravinsky, interprété par la jeune violoniste Wilde Frang, ce concert embrasse la vaste histoire de la musique, celle d'hier et d'aujourd'hui. Entrez au cœur du concert. Réservation, maisondelaradio.fr.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Entendez-vous l'écho, prend la route des vins. Tire-bouchon et calculette à la main, nous allons sillonner les vignes de la vallée du Chianti à la Géorgie à la découverte d'un marché mondial en plein essor. Un marché menacé par le dérèglement climatique et qui suscite aujourd'hui des appétits croissants. Amphores, tonneaux ou bouteilles, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la richesse.
Entendez-vous l'écho, du lundi au vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Thomas Cook a fait faillite. Le voyageur britannique n'a pas trouvé les fonds nécessaires pour relancer son financement. Le voyagiste laisse donc sans emploi plus de 20 000 salariés. 600 000 touristes vont devoir être rapatriés en urgence. Du jamais vu en 70 ans, nous racontera notre correspondant à Londres. Nous ferons le point ensuite sur l'Assemblée Générale de l'ONU qui s'ouvre ce lundi à New York et notamment sur une réunion des pays qui abritent l'Amazonie. Le Brésil va boycotter ce rendez-vous. Et puis vous comprendrez pourquoi les personnels des laboratoires médicaux entrent en grève ce lundi en France. Ils dénoncent le risque de destruction du maillage territorial médical dans le pays. Le voyagiste britannique Thomas Cook annonce donc cette nuit qu'il fait faillite. Il n'a pas réussi à trouver un accord de refinancement et sera placé en liquidation judiciaire dans les heures qui viennent. 22 000 salariés vont perdre leur emploi et les autorités vont maintenant devoir organiser la plus grande opération de rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut ramener chez eux 600 000 touristes, dont 150 000 britanniques. Le gouvernement s'active, Antoine Géniaud.
Personne ne sera abandonné, promet Dominique Raab, le ministre des Affaires étrangères, mais tous les passagers ne seront pas rapatriés gratuitement. Ceux qui ont acheté un séjour tout compris, vol et hôtel inclus, sont couverts par la garantie Atoll. Grâce à une directive européenne, ils vont pouvoir monter dans des avions affrétés par d'autres compagnies pour rentrer chez eux. Les autres, ceux qui n'ont acheté que leur billet via Thomas Cook, ne bénéficient d'aucune protection légale. L'État va lancer une grande opération pour aller les chercher sur leur lieu de vacances, mais pourrait leur refacturer le sauvetage, chiffré à près de 700 millions d'euros au total. Selon le Daily Telegraph, plusieurs avions vides sont déjà prépositionnés en attente de décollage à l'aéroport de Gatwick. Deux autres ont quitté l'Irlande, toujours à vide, en direction du Royaume-Uni, et plusieurs appareils sont censés traverser l'Atlantique.
Des rapatriements d'urgence donc que le gouvernement britannique espère faire d'ici les deux prochaines semaines. Thomas Cook n'a en fait jamais réussi à concurrencer les sites internet de voyage et subit également les inquiétudes britanniques à l'aube d'un potentiel Brexit. Le Brexit, justement. Ce matin, l'industrie automobile européenne alerte contre les effets d'une sortie sans accord. Dans un communiqué conjoint, constructeurs, sous-traitants, associations nationales estiment qu'un no deal ferait l'effet d'un séisme sur la fabrication de voitures en Europe. Ils évoquent notamment l'arrivée de près de 6 milliards d'euros de droits de douane, ce qui risque d'affecter, selon eux, le choix des consommateurs des deux côtés de la Manche. Comme lors du G7 de Biarritz cet été, l'Amazonie figure en haut de l'agenda de l'Assemblée générale de l'ONU, 74e Assemblée qui s'ouvre aujourd'hui à New York. Et c'est en marge de ce sommet consacré notamment au climat que le président français Emmanuel Macron va participer à une réunion de mobilisation, une réunion en faveur du sauvetage de la forêt amazonienne. Les pays concernés seront présents, sauf le Brésil, Christian Chesneau.
La forêt amazonienne continue de brûler, mais les pompiers ne s'entendent pas entre eux sur la meilleure façon d'arrêter le désastre écologique. Jair Bolsonaro, le président brésilien climato-sceptique, est accusé d'encourager la déforestation dans le but de développer l'industrie minière et agricole. Le Brésil ne veut pas se faire forcer la main par ses voisins ou encore par la France, qui, grâce à la Guyane, se considère comme un pays amazonien, aime à rappeler l'Élysée. Pour Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, l'enjeu est de convaincre le Brésil de défendre ce patrimoine naturel universel.
Il faut concilier cette attention internationale avec la souveraineté des États, puisque les trois quarts de la forêt amazonienne sont au Brésil. Et le Brésil a évidemment des droits et une responsabilité particulière dans cette affaire. Mais il y a urgence, à l'évidence. Et on a besoin d'autorités brésiliennes qui se saisissent du sujet à bras-le-corps.
Mais Jair Bolsonaro fait la sourde oreille. Le Brésil n'a pas l'intention de participer à la réunion sur la préservation de la forêt amazonienne qui doit rassembler aujourd'hui les pays riverains à l'ONU.
l'ONU, où il sera donc question de climat ainsi que des tensions en ce moment au Moyen-Orient. On attend toujours de savoir si Donald Trump rencontrera ou non à New York son homologue iranien Hassan Rouhani. Une semaine après des législatives serrées, Benjamin Netanyahou est de plus en plus en difficulté. Hier soir, les partis arabes, troisième force du pays, ont annoncé qu'ils recommandaient son rival, le centriste Benny Gantz, pour le poste de Premier ministre. Ils l'ont dit pour la première fois depuis 25 ans au président israélien. C'est lui qui doit arbitrer le différend suite à l'élection serrée de la semaine dernière. C'est le président qui désignera l'homme chargé de former ensuite un gouvernement de coalition. L'avocate égyptienne et militante des droits de l'homme, Maïnour El-Masri, a été arrêtée hier en Égypte. Elle a été interpellée par la police du Caire après avoir assisté aux interrogatoires de manifestants anti-Sisi. Depuis vendredi, ce sont 356 personnes qui ont été arrêtées dans le pays, des personnes qui manifestaient pour protester contre le pouvoir et pour demander le départ du président. Le procès s'annonce déjà hors norme, avec près de 5000 victimes recensées. L'affaire du Mediator est devant la justice. À partir de ce lundi, les laboratoires Servier ainsi que l'agence du médicament sont poursuivis 10 ans après les révélations de l'affaire au grand public. Le Mediator, souvent prescrit comme coupe-faim, est à l'origine de complications pulmonaires et cardiaques par centaines au moins. Et vous entendrez des témoignages de victimes, notamment sur France Culture à 7h24 tout à l'heure. Le reportage de la rédaction de ce lundi est consacré à cette affaire du Mediator. Les laboratoires de biologie médicale sont en grève à partir d'aujourd'hui. 4 syndicats se mobilisent tous les après-midi jusqu'au 1er octobre prochain. Ils protestent contre l'assurance maladie qui leur a demandé 180 puis 170 millions d'euros d'économies en 2020. Selon Lionel Barran, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux, une telle baisse des moyens serait catastrophique pour l'ensemble du secteur de la santé. Il s'en explique au micro de Diane Berger.
Alors 180 millions d'euros, c'est 5% du chiffre d'affaires, alors même que nous avons une augmentation des dépenses, du fait du vieillissement de la population premièrement, de l'augmentation des pathologies chroniques. Donc cette baisse en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, on ne peut plus avancer dans les innovations biotechnologiques, c'est-à-dire on ne peut plus investir dans des nouvelles technologies. Deux, fermer des sites, des laboratoires de proximité, soit les après-midi, soit toute la journée, à l'heure où on a des déserts médicaux et qu'on a des services de proximité justement qui fonctionnent sur l'ensemble des territoires avec un très bon maillage. Là, le risque, c'est de déstructurer ce maillage territorial. S'il y a une urgence, on ne pourra plus répondre avec des examens biologiques dans des délais compatibles avec cette urgence-là. Donc ces patients qu'on aurait pu traiter en ambulatoire vont devoir aller dans les services d'urgence hospitaliers, qui, comme on le sait, sont déjà saturés. Madame la ministre et le directeur général de l'assurance maladie ne donnent pas les moyens de faire de la biologie d'urgence et de proximité au plus proche du patient, ce qui, du coup, va emboliser les urgences d'autant plus. Ils souhaitent, après les annonces de la ministre, mettre de l'argent sur la table pour régler le problème des urgences. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent un service de proximité de plus, et en plus un service de proximité qui pouvait régler une partie de la crise des urgences actuelles. Donc là, on a l'impression qu'on est vraiment face à une politique du pompier pyromane.
Nous connaissons les prévisions de trafic pendant la grève, cette fois prévue demain à la SNCF contre la réforme des retraites. La compagnie prévoit la circulation de 2 intercités sur 5, 1 transilien sur 2 en moyenne. Et pour les TGV, seuls les axes atlantiques et les axes nord seront légèrement touchés avec 4 trains sur 5. Il avait participé au massacre d'Ascq dans le nord de la France quand en 1944, 86 hommes avaient été exécutés. L'ancien SS Karl Munter est décédé hier à l'âge de 90. Ans. L'année dernière encore, il avait justifié ce massacre et tenu des propos négationnistes devant des caméras. David Philippot.
L'ancien sergent de la Waffen-SS n'aura donc jamais purgé la moindre peine de prison pour le massacre d'Ascq. 86 hommes, âgés de 15 à 75 ans, raflés et liquidés lors d'une opération punitive. Un groupe de résistants avait fait dérailler 3 wagons d'un convoi militaire sans faire de victimes, mais la vengeance s'abattra sur des innocents. En 1949, Karl Munter et les autres soldats de la 12e Panzerdivision sont condamnés à mort par contumace par la cour d'assises de Lille, mais la France ne demandera jamais leur extradition. Déjà condamné en France, il ne pourra pas être jugé en Allemagne pour les mêmes faits. Devenu employé de poste dans un village de Basse-Saxe, il coulera des jours tranquilles jusqu'à ce que la chaîne publique ARD le retrouve et l'interviewe. Face caméra, le criminel de guerre ne renie rien et cautionne le massacre.
Nous n'avons rien fait de criminel pendant la guerre. Quand je les arrête, ils ne doivent pas bouger, jusqu'à mon signal. Et s'ils s'enfuient, c'est qu'ils ont mauvaise conscience. Et j'ai alors une bonne raison de tirer. Et si ma balle les touche, tant pis pour eux. Mais de moi-même, je n'ai pas tiré.
Ces déclarations de celui qui est vu comme un héros par les néo-nazis lui vaudront une mise en examen en juillet dernier pour atteinte à la mémoire des morts, mais aussi pour incitation à la haine raciale, après avoir mis en doute le nombre de juifs assassinés. Mais le procès n'aura donc jamais lieu.
C'était David Philippot depuis Berlin pour France Culture. La météo en France ce lundi, les éclaircies prendront le dessus sur une grande partie du pays, excepté sur le nord-est et le nord-ouest où il va pleuvoir. Comptez ce matin 16 degrés à Brest, 20 à Lille et Paris, 24 à Nice. Vous voilà installé. Bonjour Jacques
oui,
Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 et nous vous retrouvons pour le journal des idées. Et comme nous l'avons précisé dans le journal, s'ouvre aujourd'hui l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Jacques, il sera question du climat. 3 jours après la mobilisation, notamment de nombreux jeunes, mobilisation pour le climat un peu partout dans le monde, Jacques.
Oui, Clara, plus de 4 millions de personnes ont manifesté et 5800 actions dans 163 pays, 73 syndicats, 820 associations de la société civile ou encore 3024 entreprises ont été engagées dans le mouvement de grève pour le climat. Selon le bilan présenté par l'ONG internationale 350.org que cite Le Monde, commencé en Asie, les manifestations ont été particulièrement réussies en Australie avec près de 400 000 personnes, mais aussi des milliers de manifestants au Japon, en Inde, aux Philippines, au Pakistan ou encore en Thaïlande. La jeunesse africaine a elle aussi défilé avec 5 000 personnes en Afrique du Sud, mais aussi des centaines de lycéens à Kampala, en Ouganda. C'est l'Allemagne qui remporte la palme du pays qui a le plus mobilisé avec 1,4 million de marcheurs. Manifestation très suivie également à Londres avec 100 000 personnes dans les rues. Les jeunes se sont mobilisés aussi au Portugal, en Turquie, aux Pays-Bas, en Grèce, en Italie. En France, 40 000 manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes. Alors, tout comme Greta Thunberg, la Canadienne Severn Culley-Suzuki s'était fait connaître à l'âge de 12 ans, en 1992, à la tribune du sommet de la Terre de Rio. Aujourd'hui biologiste et écologiste, elle poursuit son engagement aux côtés d'un peuple autochtone, les Haïda, et affirme que nous devons nous inspirer de leur sagesse pour vivre en harmonie avec la nature. Dans les pages idées de Libération, elle insiste sur la nécessité d'un combat intergénérationnel et elle souligne la surreprésentation des filles dans ce mouvement. Ce sont les femmes, dit-elle, qui sur cette planète s'occupent le plus souvent des enfants, font attention à leur éducation, à leur santé, lisent la liste des ingrédients sur les aliments qu'elles donnent à manger, donnent à des ONG environnementales, se préoccupent de l'avenir. Alors que la société ne valorise pas ses comportements et les valeurs qui les sous-tendent, elle observe que notre PIB, qui n'a jamais été censé mesurer la qualité de la vie, croît après le passage d'un ouragan. Et elle cite l'ex-ministre des Finances canadien, Joe Oliver, qui n'a pas hésité à affirmer que le Canada profitera du changement climatique, car cela fera croître notre PIB. C'est pourquoi elle s'interroge sur nos valeurs. Nous avons besoin de plus de femmes au pouvoir pour contrebalancer cela, estime-t-elle. Et pour illustrer notre situation actuelle, elle rappelle que l'esclavage a été le moteur de l'économie mondiale pendant des siècles. Les anti-abolitionnistes brandissaient la menace d'un désastre économique, de la même manière que les lobbies des énergies fossiles nous assurent aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer de celles-ci. Courrier International publie un texte de Robert Templer, auteur irlandais aujourd'hui consultant en matière de sécurité et de risques pour l'ONU. Il s'agit d'une lettre adressée aux derniers habitants des Maldives en 2060, là où une forme de tourisme, probablement l'une des plus polluantes du monde, s'est développée à une échelle industrielle. Je cite, si nous avions commencé en 2000, il aurait fallu réduire les émissions de gaz carbonique de 3% par an, soit un seuil gérable pour maintenir la hausse des températures à 2%. Si nous avions commencé en 2019, il aurait fallu baisser de 10% par an. Cela nous aurait coûté environ 3 milliards de dollars par an en investissement dans les énergies propres pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Une somme considérable, mais bien en dessous des quelques 5000 milliards par an engloutis par les énergies fossiles sous forme de subventions diverses. L'hebdomadaire indique d'ailleurs qu'à l'initiative de la Columbia Journalism Review et de The Nation, 170 organes de presse se sont engagés à renforcer leur couverture de la crise climatique. L'Humanité évoque le sommet qui doit rassembler aujourd'hui une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement à New York. Vous allez revenir sur cet événement, Julie. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ambitionne de ranimer une dynamique internationale. Aujourd'hui léthargique. Marie-Noëlle Bertrand précise que pour lui, seuls les États qui auront des engagements clairs à mettre sur la table auront accès à la tribune. En faisant cela, le secrétaire général de l'ONU prend le risque de s'attaquer à Trump et à ses partenaires, relève Maxime Combe, économiste et membre d'Attaque. La Croix fait sa une de l'événement et suggère plusieurs pistes pour agir sur le climat. Consommer moins d'énergie, modifier nos habitudes alimentaires et se déplacer autrement. Marine Lamoureux souligne que le sommet de l'ONU doit également convier le monde de la finance et la société civile. Et à propos de la journée sans voiture à Paris hier dimanche, Alain Devès rappelle dans les échos que bien que la marche soit citée par 49% des Parisiens comme le premier mode de déplacement utilisé en journée, les trottoirs et voies piétonnes n'occupent que 11% de l'espace public de la capitale. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Alors dans les enjeux internationaux, vous revenez non pas sur le sommet sur le climat, mais sur l'Assemblée Générale avec cette question. L'ONU peut-elle tenir sa promesse d'un monde multilatéral?
Oui, c'est ce qu'on a beaucoup entendu fin août au contre-sommet du G7 organisé pas loin de Biarritz à la frontière franco-espagnole. Des ONG comme Attaque, par exemple, qui considèrent le G7 et le G20 d'ailleurs comme illégitimes, souhaiteraient que le cadre de l'ONU multilatéral, 193 pays et qui respecte la diversité des peuples, soit le seul à pouvoir traiter des grands enjeux sociaux, économiques et écologiques, à condition bien sûr d'être réformé et renforcé. Alors on profite de ce que s'ouvre l'Assemblée Générale des Nations Unies, forum démocratique par excellence, puisque les 193 pays membres y sont représentés, pour en parler avec vous, Alexandra Novoselov. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes chercheure à l'Institut International pour la Paix et chercheuse associée au centre Thucydide de Paris 2. Alors cette Assemblée Générale des Nations Unies, elle n'a pas pour seule vocation de se réunir. Elle a aussi des compétences politiques, des compétences normatives. Quel sujet important pourrait être soumis au vote des 193 pays membres cette semaine? Est-ce qu'il va y avoir des votes?
Je crois que c'est pas l'objet de cette semaine. Cette semaine, c'est l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui interviennent, qui donnent un peu leurs orientations internationales, diplomatiques, et donc c'est en général pas le moment où il y a des votes aussi bien à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité, sauf événement particulièrement important.
Événement particulièrement important ou enjeu très important, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que cette Assemblée Générale va être dominée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce qu'un cadre multilatéral peut contraindre à une rencontre bilatérale?
Alors c'est vrai que cette semaine, tous les chefs d'État sont dans une même dans un même lieu, si je puis dire, et donc leur conseiller prévoit un certain nombre de rencontres et envisage ces rencontres, mais elles se font suivant s'il y a un contexte qui le permet. Je crois qu'aujourd'hui, la rencontre qui aurait pu être envisagée entre le président Trump et
Hassan Rouhani,
sans doute n'aura pas lieu en raison du contexte suite aux frappes sur l'Arabie Saoudite. Mais voilà, ils seront dans un même lieu et pourquoi pas, mais bon c'est peu probable.
Et puis pour l'instant, les frappes sur l'Arabie Saoudite restent non attribuables, comme on dit, l'Iran ne les a pas revendiquées, donc c'est vrai que les discussions seront compliquées. Vous serez sans doute particulièrement attentive, Alexandra Novoselov, au discours que fera Donald Trump, son troisième discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le premier avait sonné étrangement aux oreilles des autres participants. Il avait dit « Les États-Unis ne sont qu'un pays membre, sous-entendu sur 193, et nous sommes responsables de 22% du budget total. » Il critique souvent le poids financier qu'il trouve injuste pesant sur les États-Unis. Est-ce qu'il pourrait aujourd'hui remettre en question son engagement aux Nations Unies ?
Ça, je ne crois pas. Les États-Unis sont un des membres fondateurs des Nations Unies et ça reste, quoi qu'on dise, quoi qu'on critique, ça reste un lieu où il est possible de faire des deals. On est encore aujourd'hui, je crois qu'on ça on a tendance à l'oublier, dans le cadre de la charte signée en 1945 et qui permet, bon an mal an quand même, de réguler les relations internationales à travers notamment le Conseil de sécurité. Les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité, donc comme on dit, ils sont un peu plus égaux que les autres Et puis le poids financier en fait dépend du poids économique d'un État, puisque les cotes-parts, hein, les cotisations obligatoires sont calculées sur le PNB d'un État.
Le produit national brut.
Voilà, donc s'il paye 22%, c'est normal puisqu'il a ce poids dans l'économie mondiale.
Et puis s'il se désengageait, il pourrait perdre sa place de membre permanent du Conseil de sécurité. Et pour l'instant, c'est sans doute pas l'objectif des États-Unis. Alors on parle souvent de l'Assemblée générale des Nations Unies comme d'un parlement du monde, du parlement du monde. Je crois que c'est l'expression de Kofi Annan. Mais un parlement, c'est une institution qui légifère, qui a un contrôle sur les gouvernements ou le gouvernement. Est-ce qu'une organisation mondiale aussi légitime soit-elle aujourd'hui peut imposer quoi que ce soit à des États souverains qui, comme leur nom l'indique, sont souverains?
Bah non. Et moi, je récuse un peu ce terme de parlement, puisque parlement, ça veut dire qu'il y ait des membres élus. Or, les États qui siègent à l'Assemblée générale sont des États, de droit, entre guillemets. Ils ont adhéré à cette organisation et ils siègent en tant qu'État. Il n'y a personne d'élu dans cette Assemblée. Hein.
Donc, est-ce que l'ONU peut être ce cadre multilatéral, comme l'ont dit encore une fois certaines ONG cet été, juste avant le G7 ? L'ONU serait le seul cadre multilatéral légitime parce que fondé sur la solidarité et sur la réponse à l'urgence écologique, on va en reparler dans le journal, qui permettrait donc de traiter les grands enjeux écologiques, économiques et sociaux. Et faire disparaître en gros tout le reste, le G7, le G20, toutes les réunions, les sommets, et ne garder l'ONU comme seul cadre de ces discussions multilatérales.
Non, je crois pas. Je crois que les États ont besoin d'une espèce de multiplicité de formats et que l'ONU est là. C'est la seule organisation qui recoupe l'ensemble des États du monde et c'est ce qui en fait sa légitimité, ce qui aussi en fait sa lourdeur, puisque à 193, c'est quand même plus difficile de négocier un texte qu'à 7. États membres comme au G7. Mais je crois que les États ont besoin de cette multitude de formats pour ensuite arriver aux Nations Unies plus près, si je puis dire, sur des textes qu'ils auraient négociés dans d'autres formats, mais qui soumettraient aux Nations Unies. Par exemple, ça avait été, alors maintenant ça date, mais le Kosovo, la crise au Kosovo, elle avait été la résolution qui a réglé cette crise, entre guillemets, la résolution 1244 du Conseil de sécurité, elle a été négociée préalable dans ce qu'on appelait à l'époque le groupe de contact. Hein.
Un groupe de contact préalable à une assemblée générale
qui était le groupe de contact qui gérait un peu cette crise au Kosovo, où il y avait les États-Unis, la Russie, l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité, etc., ceux qui avaient un intérêt sur ce dossier-là. Et ils ont négocié une résolution qui ensuite, ils l'ont soumis au Conseil de sécurité, qui l'a validée et qui en a fait la résolution de base pour régler cette crise.
C'est vrai que l'ONU donne quand même, sur certains aspects, l'image d'un multilatéralisme de façade, que ce soit les critiques formulées à l'encontre du Conseil de sécurité, qui ne représente pas directement les 193 États, mais 15, dont 5 permanents, ce qui est déjà un progrès par rapport au début. Hein, ils étaient 9, je crois. Les opérations de maintien de la paix aussi, dont par exemple le chercheur Guillaume Devin dit que le Nord finance quand le Sud paye le prix du sang. C'est l'Éthiopie, c'est le Bangladesh, c'est le Rwanda qui fournissent les plus gros contingents de troupes. Donc est-ce que l'ONU est cette instance du multilatéralisme tel qu'on l'espère ?
Non, mais d'abord, je crois que le Conseil de sécurité, il n'a jamais été conçu pour être démocratique. Ça ne veut rien dire d'ailleurs, hein, pour ce qui est des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, il a été conçu comme un organe restreint pouvant prendre des décisions en matière de sécurité internationale de manière rapide, parce que justement, il y a 15 États et pas 193. Chaque organe des Nations Unies a son rôle, sa place et agit en fonction de sa composition et des moyens qu'on lui donne. J'ai l'habitude de dire que l'ONU en tant que telle, ça n'existe pas. Ce sont ce que les États veulent en faire.
Les États souverains, et on ne peut pas réformer l'ONU sans volonté des États.
Ça, c'est clair, et il y a un Conseil de sécurité, il y a une Assemblée générale, tout ça a différentes fonctions.
Alexandra Novoselov, si vous deviez citer un moment où, assistant à une Assemblée générale des Nations Unies, vous vous êtes dit « là, il se passe quelque chose » et que vous avez pu, quelques temps plus tard, avec du recul, sentir que ce quelque chose s'était effectivement produit.
Je crois qu'il n'y a pas forcément un moment, il y a une espèce de continuité, il y a un progrès un peu normatif. On ne peut pas juger le travail des Nations Unies d'année en année. Je crois qu'il faut, le faire sur une décennie. Malheureusement, c'est un peu contraire au temps politique intérieur, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup Alexandra Novoselov d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente « Ne croyez surtout pas que je hurle ». Entre avril et octobre 2016, isolé dans un village alsacien après une rupture amoureuse, Franck Beauvais visionne sans relâche plus de 400 films. Il en extrait une mosaïque d'images pour évoquer sa souffrance et son désarroi face au climat sécuritaire qui règne alors en France.
Alors, je retourne à mon écran, le lieu des obsessions magnifiques où les mirages de la vie se teintent de sublime.
Ne croyez surtout pas que je hurle, de Franck Beauvais, le 25 septembre au cinéma. Un partenariat France Culture.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture. Sur franceculture.fr.
6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à tous.
Vous vapotez, vous ?
Non, mais justement.
Donc vous allez continuer à ne pas vapoter.
C'est ça. D'y mettre parce que c'est intéressant, cette brusque panique autour de la cigarette électronique. La cigarette électronique aurait fait 5 morts et, mettons, 700 malades aux États-Unis. Immédiatement, les États-Unis, mais aussi l'Inde, veulent l'interdire. Voilà enfin deux gouvernements, Julie, qui prennent très au sérieux la santé de leurs ressortissants. Reste que l'on ne comprend pas très bien pourquoi cette urgence donc pour la cigarette électronique qui a causé, je le rappelle, 5 morts. 5 morts, c'est beaucoup, beaucoup trop, mais 5, c'est moins que 480 000 personnes, car en 2015, on considérait que 480 000 Américains mouraient chaque année du fait du tabac. 6 millions dans le monde, c'est la première cause de mortalité. Alors bien sûr, il n'est pas évident de savoir combien de personnes ont cessé de fumer pour vapoter, sachant que le mouvement historique est plutôt celui de la baisse de la consommation de tabac. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a plus que 15% des adultes qui fument. 15%, c'est beaucoup, mais c'est 3% de moins qu'il y a 3 ans. Une baisse que l'on ne peut pas ne pas relier, en tout cas pour partie, à l'apparition de la cigarette électronique. Et même un débutant en matière de santé publique trouverait quelque peu étonnant d'interdire la cigarette électronique, même si celle-ci a tué, je le rappelle, 5 personnes, sachant que, par exemple, chaque année aux États-Unis, les armes à feu tuent
40 000 personnes. Alors bien sûr, rien ne dit que si d'aventure un gouvernement américain interdisait, mettons, les armes à feu, rien ne dit alors que les cigarettes électroniques ne deviendraient pas des armes par destination. On assisterait à des actes barbares à grands coups de vapoteuse. N'empêche que l'on ne peut pas s'empêcher de s'étonner de cette hiérarchie qui est effectuée, car bien entendu, il y a d'autres choses qui tuent par rapport aux armes à feu, on l'a dit, par rapport à l'obésité, aux cirrhoses. Pour prendre un autre danger grave, Julie, les escalators et les ascenseurs ont fait aux États-Unis en 2006 30 morts et 17 000 blessés. Il me paraît donc urgent d'interdire ces dispositifs. 6 fois plus risqués que la cigarette électronique, ça permettra de voir si le lobby des fabricants d'ascenseurs est plus ou moins puissant que le lobby du tabac aux États-Unis.